VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Voilà, bonjour à tous, Bagassi Kouré, Jean-Roger Bion, votre compagnie. Bienvenue dans cette édition du mercredi 18 mai 2016. Voyons ce qui fait l'actualité.
Attaque armée cette nuit contre un commissariat de police dans la région de Djibou, dans l'extrême nord du Burkina Faso.
Toujours au Burkina Faso, l'incivisme agace.
Il n'est pas acceptable que des élèves, pour quelque raison que ce soit, sortent, prennent les motus de leur encadrement, brûlent, agressent.
15 milliards de dollars, promesse hier des bailleurs de fonds pour soutenir le développement ivoirien d'ici 2020.
Grève nationale ce mercredi au Nigeria. Les syndicats s'insurgent contre la hausse du prix du carburant.
Au Tchad, le mouvement citoyen IENA ne comprend pas l'arrestation de l'un de ses membres à Moudou, dans le sud du pays.
Comment un étudiant qui n'est pas l'organisateur d'un mouvement puisse se retrouver dans leur périmètre?
Voilà, et ne ratez pas, hein, dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal.
Bonjour à tous. Attaque armée dans la nuit contre un commissariat de police dans l'extrême nord du Burkina Faso. Lionel Gaïma pour les détails.
Selon nos informations, des combats opposés tard mardi soir, les forces de l'ordre burkinabé à plusieurs assaillants lourdement armés. L'attaque a eu lieu à Koutougou, dans la province de Soum, une région aux frontières du Niger et du Mali. Une source sécuritaire jointe par VOA Afrique affirme que des renforts ont été envoyés dans la zone pour contrer ces assaillants, dont on ne connaît pas l'identité. La même source a indiqué ne pas savoir s'il s'agit des terroristes ou des bandits armés. Aucun bilan n'est encore disponible. Cette partie du Burkina est une zone de forte instabilité. C'est là qu'en mi-janvier, un couple australien, le docteur Kent Elliott et sa femme, avaient été enlevés précisément à Djibo, la grande ville de cette région. Madame Elliott avait été libérée quelques jours plus tard au Niger, mais Dr Kent est toujours entre les mains de ses ravisseurs, en l'occurrence des hommes de l'Émirat du Sahara, une branche d'ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, agissant dans le nord du Mali.
Paris a accueilli une conférence sur la Côte d'Ivoire. Les bailleurs de fonds se sont engagés à hauteur de 15 milliards de dollars pour soutenir le développement ivoirien d'ici à 2020. John Lindon.
Le groupe consultatif sur la Côte d'Ivoire s'est réuni pour deux jours à Paris pour tenter de financer le plan de développement ivoirien pour la période 2016-2020. À l'issue d'une première journée hier avec le premier ministre ivoirien, les institutions financières et les bailleurs de fonds ont promis 15,4 milliards de dollars sous forme de prêts ou de dons, soit près du double de ce que souhaitait Abidjan. Ce plan ambitionne de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent dans 4 ans avec une croissance de l'ordre de 8,8% et pour objectif affiché la réduction de la pauvreté. Ce plan met l'accent sur l'amélioration de la transformation des matières premières agricoles et la diversification de l'appareil industriel avec la promotion d'une industrie manufacturière.
Et la ministre ivoirienne de la cohésion sociale, Marietou Koné, se dit confiante quant au retour définitif de 11 000 exilés pro-Gbagbo installés au Ghana depuis la crise post-électorale de 2010-2011. Les précisions, Jacques Aristide.
D'après le Haut Commissariat aux réfugiés, plus de deux tiers des 300 000 Ivoiriens ayant fui leur pays pendant ou après le conflit sont déjà rentrés chez eux. La ministre Koné a reconnu que de nombreux exilés ont exigé, notamment lors de manifestations, des garanties sécuritaires avant d'être rapatriés, citant le cas de certaines personnes qui ont été arrêtées à leur retour au pays malgré les promesses du gouvernement. Le retour des réfugiés est un enjeu majeur pour la réconciliation nationale et l'une des priorités du gouvernement d'Alassane Ouattara après la fin de la crise provoquée par le refus de l'ex-président Laurent Gbagbo de reconnaître la victoire de son rival.
Grève nationale maintenue ce mercredi au Nigeria pour protester contre la hausse du prix du carburant. Le plus important syndicat du pays a maintenu cette grève malgré une décision judiciaire prise mardi, lui interdisant de lancer la grève. Le Nigeria Labour Congress et le Trade Union Congress avaient appelé samedi à une grève nationale illimitée à compter de ce mercredi jusqu'à ce que le prix de l'essence à la pompe, 145 naira le litre, soit abaissé à 86,5 naira. Mais la Cour industrielle nationale leur a interdit temporairement mardi de mettre leur menace à exécution, ajournant l'affaire au 24 mai, date à laquelle le jugement doit être rendu.
Au Tchad, le mouvement citoyen IINA, qui s'est donné pour mission de combattre l'injustice et la malgouvernance, dénonce l'arrestation de l'un de ses membres à Moundou, c'est dans le sud du pays. Ogandje Solo Bertrand est rapporteur du groupe.
Les autorités judiciaires nous ont fait comprendre que l'étudiant était pris en flagrant délit dans ces manifestations et qui sont deux, donc il faut que la justice fasse son travail. Mais ce que nous ne comprenons pas, comment un étudiant qui n'est pas l'organisateur d'un mouvement puisse se retrouver dans leur collimateur. Nous, simplement, c'est un règlement de compte. Parce que les membres de l'INA étaient déjà traqués par le service de renseignement et par plusieurs fois, ils l'ont appelé pour l'intimider. Donc, nous ne comprenons pas leur motif.
La RCAC dote d'un comité national pour la prévention et la répression du crime de génocide, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et toute forme de discrimination. Le lancement officiel a eu lieu ce mardi à Bangui. Le point avec Freeman Sipila.
Le lancement a été fait en présence d'Adama Dieng, conseiller spécial du secrétaire général de l'ONU sur la prévention du génocide en mission de travail à Bangui. Du 17 au 19 de ce mois, les membres de ce comité vont être formés sur le rôle auquel ils sont appelés à jouer. L'avocat Bruno Yacine Biegba en est le président.
Nous sommes en train aujourd'hui de former les membres du comité et comme vous entendez le nom, c'est un comité qui est chargé de prévenir le crime de génocide et les autres atrocités. C'est-à-dire que nous serons formés pour travailler avec nos autorités pour voir les signes qui peuvent permettre soit les crimes de masse ou bien les crimes de génocide pour attirer leur attention afin de les arrêter.
La République centrafricaine devient ainsi le 8e des 12 pays de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs à disposer de ce comité après le Congo, la République démocratique du Congo, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Soudan du Sud et la Tanzanie. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
L'ONU a indiqué mardi avoir recensé depuis le début de l'année 44 accusations d'abus sexuels qui auraient été commis par ces casques bleus, dont 29 concernent sa mission en République centrafricaine, la MINUSCA. Parmi une série de mesures, l'ONU a recommandé de créer des cours martiales in situ pour juger les coupables et de prendre les empreintes génétiques des casques bleus.
L'Organisation mondiale de la santé a annoncé la tenue d'une réunion de son comité d'urgence le 19 mai sur la fièvre jaune en Afrique qui a fait près de 300 morts depuis fin décembre. Michel Joseph.
Des experts vont examiner la situation et faire des recommandations. Ce comité pourra aussi décider si l'épidémie de fièvre jaune est une urgence de santé publique, comme pour Ebola ou Zika. Depuis fin décembre, 293 décès ont été signalés en Angola, de même que 696 cas confirmés et 2267 cas suspects. Luanda reste l'épicentre de l'épidémie. La République démocratique du Congo voisine compte 41 cas confirmés, dont 2 locaux et le reste importés. L'Ouganda a détecté 7 cas confirmés et, selon l'OMS, 2 cas importés au Kenya et 11 en Chine.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La candidate à l'investiture présidentielle démocrate Hillary Clinton a essuyé une défaite mardi contre son poursuivant Bernie Sanders à l'élection primaire de l'Oregon et un résultat qui ne remet pas en cause son statut de favorite. Clinton qui a en revanche remporté de justesse dans l'autre primaire de mardi dans le Kentucky.
Le Parlement turc a soutenu hier, lors d'un vote préliminaire, un projet de révision constitutionnelle controversé pour lever l'immunité des députés visés par des procédures judiciaires. Le HDP, accusé par le pouvoir turc d'être la vitrine politique du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, organisation classée terroriste par Ankara, Washington et Bruxelles, voient dans cette proposition une manœuvre du gouvernement visant à chasser ses élus du Parlement.
Le Parlement vénézuélien, où l'opposition est majoritaire, a rejeté mardi l'état d'exception décrété par le président Nicolas Maduro, plongeant un peu plus ce pays pétrolier dans le chaos.
Et puis les rebelles au Yémen qui contrôlent la capitale Sanaa et vaste région du nord et de l'ouest ont mené une campagne d'arrestation brutale contre leurs opposants et ont soumis certains d'entre eux à la torture et à des disparitions forcées, affirme Amnesty International. Le conflit yéménite qui s'est enlisé a fait près de 6500 morts et plus de 31 000 blessés selon l'Organisation mondiale de la santé.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco. Ce matin, c'est avec John Lyndon.
La compagnie ivoirienne d'électricité va émettre des avoirs au bénéfice d'environ 1 million d'abonnés. Une décision, souligne le Financial Afrique, qui fait suite à la sommation du président ivoirien Alassane Ouattara le 1er mai d'annuler les hausses des tarifs d'électricité intervenues depuis juillet 2015. Ceci dans un contexte de grogne sociale, alors que les factures des derniers mois affichaient des augmentations allant parfois jusqu'à 50%. Le président guinéen Alpha Condé a annoncé que la justice allait être saisie pour faire la lumière sur les conditions dans lesquelles le groupe britannique Sable Mining a acquis ses concessions minières en Guinée suite aux accusations de corruption révélées dans un rapport de l'ONG Global Witness. Le rapport indique en effet que des irrégularités et des pots de vin auraient été versés par la compagnie britannique en vue de l'obtention de permis miniers. Plus de 500 membres des délégations africaines et internationales sont réunis à Yaoundé, la capitale camerounaise, dans le cadre de la Conférence économique internationale sur les opportunités d'investissement au Cameroun. À l'initiative du gouvernement, cette conférence a pour thème « Investir au Cameroun, terre d'attractivité ». Cette conférence a pour objectif de promouvoir les opportunités d'investissement et s'inscrit plus largement dans la vision du Cameroun d'être un pays émergent à l'horizon 2035.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui, c'est sur VOA Afrique et voafrique.com, c'est l'heure des sports. Bonjour Nicolas Pinault.
Bonjour Bagassi.
Alors on commence par du football, un tour de cadrage de la Coupe de la Confédération.
Quoique battu 2-1 au stade olympique de Gabès en Tunisie par le stade gabésien en match retour du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération, le tout-puissant Mazembe se qualifie pour la phase des poules à la faveur de leur victoire 1-0 à l'aller. Merveille Bopé Bokadi a inscrit l'unique et précieux but de Mazembe à la 70e minute de jeu. Avant cela, sur pénalty à la 28e minute de jeu, Youssef Fouzi avait ouvert le score et Ahmed Hosni à la 75e minute avait donné l'avantage aux Tunisiens. Buteur à l'aller, Jonathan Bolingimpangi a été expulsé à la 76e minute. Félicitations donc au Corbeau. Et l'autre grand d'Afrique qui jouait hier a été éliminé. Bye bye, l'Espérance de Tunis qui accueillait le Mouloudia Olympique de Béjaïa. Score final 1 partout, insuffisant pour les Tunisiens après le match nul 0-0 en Algérie. C'est Béjaïa qui passe.
Autre rencontre ce mercredi.
Le stade malien de Bamako en déplacement au Fus de Rabat après le match nul 0-0 à l'aller. Le Sagrada Esperanza d'Angola contre les Young Africans de Tanzanie. Le Medeama du Ghana accueille les Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Cap Cap de Marrakech contre Al Merrer du Soudan. Misrel Makassa d'Égypte contre le Al Ahly de Tripoli. Et puis le CF Mounana, le club gabonais, contre l'Étoile du Sahel après la défaite 2-0 à l'aller en Tunisie.
Antoine Griezmann, superstar de l'Atlético Madrid.
L'attaquant français a été élu joueur de l'année par les supporters de l'Atlético Madrid. Une récompense qui a fait plaisir à l'intéressé, très content de sa saison à 10 jours de la finale de la Ligue des Champions.
Oui, parlons de dopage à présent, coup de filet dans l'athlétisme marocain.
La police marocaine a arrêté des athlètes et d'autres personnes soupçonnées d'implication dans un large réseau de dopage, et ce dans le cadre d'une plainte de la Fédération marocaine d'athlétisme. Des médias marocains ont fait état hier de l'arrestation d'un athlète marocain résidant en Italie. Il aurait fourni des produits dopants à d'autres athlètes marocains. Et selon le quotidien Al Sabah, 8 personnes ont été arrêtées au total dans le cadre de cette affaire, dont un militaire. Et puis Bagassi, je vous laisse donner quelques résultats des playoffs NBA, le championnat de basket nord-américain.
Oui, Cleveland est resté invaincu en playoff en écrasant 115-84 Toronto, fatigué de son tour précédent contre Miami. Hier soir, lors de la première manche de la finale de la Conférence Est, Kyrie Irving, 27 points, et la star LeBron James, 24 points, ont mené les Cavaliers, dominateurs quasiment du début à la fin devant leur public. Cette victoire par 31 points d'écart est la plus large en play-off de l'histoire de Cleveland, qui n'a pas perdu une rencontre depuis le début de cette phase finale. Le match numéro 2 de cette série, au meilleur des 7 matchs, aura lieu jeudi, toujours dans l'Ohio. Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bagasekura de retour avec vous. Place à présent au dossier du jour. Que faire de l'incivisme grandissant au pays des hommes intègres, le Burkina Faso? Des élèves traduits en conseil de discipline n'ont eu d'autre réflexe que de vandaliser des biens et séquestrer leurs enseignants dans un lycée départemental, mettant la pression sur le gouvernement burkinabé. Des détails avec notre correspondant Issa Napon à Ouagadougou.
C'est le lycée départemental de Gounguin, commune située sur l'axe Ouagadougou-Fada, à l'est du pays, qui défraie la chronique. Des élèves traduits en conseil de discipline se sont mis en colère, ont dégradé des biens publics et privés, violenté leurs enseignants dont certains ont été séquestrés. Ces derniers n'en reviennent pas.
C'est autour de 9h que nous avons entendu des sifflets dans la cour de l'établissement. Après, les élèves sont rassemblés autour du mât. Et la première chose qu'ils ont eu à faire, c'est incendier ma moto. Ils nous proféraient des injures et ils ont commencé à jeter des pierres. Je me suis retrouvé dans l'administration, enfermé dans mon bureau.
Quand, en tant qu'éducateur, vous devez accompagner ces jeunes âmes à prendre le droit chemin et vous vous retrouvez sur des précipices qui ne sont pas ce que vous attendez, naturellement, vous ne pourrez qu'être écœuré.
Alors que le lycée départemental de Gounguin reste fermé jusqu'à nouvel ordre et que débutent des conciliabules pour ramener le calme dans la petite commune, le ministre en charge de la sécurité intérieure tape du poing sur la table, Simon Compaoré.
Il n'est pas acceptable que des élèves, pour quelque raison que ce soit, sortent, prennent les motus de leur encadrement, brûlent, agressent, comme ça l'a été à Logobo et hier à Gounguin. Ces enfants-là, ils vont recevoir maintenant l'enseignement de qui? C'est une gangrène, il faut étouffer la chose dès maintenant. C'est pourquoi je pense que des sanctions doivent tomber. Il faut que force reste à la loi, qu'on sente qu'il y a des pilotes dans le cockpit.
Ce nouvel abcès sera-t-il vraiment le dernier de cette liste d'actes de civisme qui s'allonge? C'est bien ce que laisse entendre le ministre d'État Simon Compaoré, mais aussi l'ensemble des Burkinabés qui cependant analysent bien ces comportements de la jeunesse.
Chacun doit faire passer un message de sensibilisation dans sa famille pour qu'on puisse aboutir. Il faut amener encore l'éducation civique là, au niveau du primaire.
On a fait une révolution, on a essayé de faire changer les choses, mais il y a un vrai problème de mécontentement général depuis près de 27 ans. Donc c'est le gouvernement passé qui a créé tout ça.
Les enfants sont nés dans ce ras-le-bol. Il faut rééduquer ces enfants, faire des caravanes dans les établissements pour dire aux gens la solution ne viendrait pas de ces violences-là.
L'incivisme avait déjà franchi la ligne rouge lorsque dans plusieurs collèges, des élèves avaient violenté et attenté à la vie d'enseignants, mais aussi brûlé le drapeau national, suscitant l'émoi dans tout le pays. Issa Napon, Ouagadougou, VOA Afrique.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, Burkina Faso, Ouagadougou, sur 102.4 FM.
À une semaine du sommet mondial sur l'action humanitaire qui se tiendra en Turquie, le coordonnateur des secours d'urgence des Nations Unies, Stephen O'Brien, est en tournée en Afrique de l'Ouest pour dresser un état des lieux de la crise humanitaire qui touche le bassin du lac Tchad. Il est ce mercredi au Nigeria, en provenance du Niger. Au Niger, où il s'est rendu à Diffa, affecté depuis février 2015 par les attaques de la secte Boko Haram. Suivons ce reportage de notre correspondant au Niger, Abdul Razak Idrissa.
Depuis bientôt une année qu'ils sont sur le site qui porte le nom de leur village, les plus de 6000 réfugiés nigériens du village d'Assaga déclarent se sentir en sécurité. Il reste cependant qu'il leur manque de la nourriture notamment. Bientôt, ils passeront leur cinquième mois sans une ration suffisante.
C'est les deux premiers mois là qu'on n'a pas eu de problème. Mais maintenant, vraiment, nous sommes confrontés à un problème d'alimentation. Et ce qu'ils nous donnent là, ça ne suffit pas à la ration de la famille.
Nous avons vraiment besoin de nourriture, surtout le problème de jusqu'à la nuit tard. Vous entendez les femmes au niveau des robinets en train de chercher de l'eau. Nous en appelons au Niger, au Nigeria, à l'Afrique, à toute la communauté de nous aider.
Aujourd'hui donc, plus que jamais, ces Nigériens qui ont fui les atrocités de la secte Boko Haram ont besoin de nourriture et même sur le plan sécuritaire, Kari Boukar, la cinquantaine sonnée, venue avec sa famille de plus de 15 membres, les larmes aux yeux, lance un appel au président Muhammadu Buhari.
Nous souhaitons que le président fasse plus d'efforts, qu'il amène les militaires autour de Damasak, autour de Malam Fatouri, pour chercher ces jeunes qui sont là en train de fatiguer les gens, ils tuent les gens, ils prennent leur bétail. Nous souhaitons vraiment qu'il y ait la paix pour que nous retournions.
Avec ce qu'il a pu voir et entendre, le secrétaire général adjoint des Nations Unies, chargé des affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence, pense avoir trouvé ainsi les bons arguments pour convaincre au sommet mondial sur l'action humanitaire prévu la semaine prochaine en Turquie. Stéphane Aubryan.
J'ai la vérité des histoires des peuples ici qui ont les besoins très importants et très immédiats. C'est très important d'avoir cette vérité pour créer les arguments les plus impressionnés avec les gens qui sont les chefs de monde, des chefs d'État, des chefs de gouvernement, des chefs des NGOs, des CSOs, tous les gens qui ont beaucoup d'influence pour gagner une nouvelle approche pour supporter les gens qui ont les besoins les plus immédiats.
À la date du 9 mai 2016, le nombre de réfugiés nigériens sur le territoire nigérien est estimé à plus de 82 000, auxquels s'ajoutent environ 130 000 déplacés internes et plus de 31 000 personnes retournées, n'a pas encore dépassé les 25 %. Abdelrazak Idrissa, de retour de Difa pour VOA Afrique.
VOA Afrique au Niger à Niamey, 24 heures sur 24 sur 102.5 FM.
Certains ouvriers du stade Amadou Ahidjo, un des trois stades choisis pour la Coupe d'Afrique de football féminin 2016 au Cameroun, refusent de reprendre le travail depuis l'effondrement d'une partie de l'édifice. L'incident a provoqué le doute chez certaines personnes sur la capacité du pays à respecter les délais de la CAF. Reportage de Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé.
C'est un bruit du climatiseur dans un bureau du stade Omnisports Amadou Ahidjo en pleine rénovation à Yaoundé. Ce climatiseur a été abandonné en pleine installation pendant l'effondrement d'une partie du stade il y a une semaine. Alain Gounadjo, admirateur du football, a visité le stade après l'incident.
Vraiment, ça fait peur. On ne sait pas si d'un moment à l'autre, ça pourra encore s'écrouler. Et ça ne nous rassure pas, comme un pays d'accueil comme le Cameroun qui va recevoir plusieurs invités ici chez nous. Ce jour-là, ça nous fera quand même donner un peu de doute. Il faudrait que l'administration nous rassure, n'est-ce pas, dans la qualité du service et des infrastructures qu'on nous propose.
L'État du Cameroun avait déclaré un mort, mais Terry Fotso, un manœuvre, parle de trois personnes enterrées.
Il faut des précautions et il faut savoir comprendre qu'à ce niveau-ci, il ne faut plus qu'une personne doit entrer, c'est la machine qui doit faire ce travail. Moi, j'étais placé derrière, la terre est tombée sur eux. Donc, nous étions quatre pour un départ. Après, ils m'ont enlevé et ils sont restés trois.
Le stade en question est l'un des trois choisis pour la Coupe africaine de football féminine en novembre 2016. Certaines langues doutent de la capacité du Cameroun à respecter le délai de 3 mois donné par la Confédération africaine de football. Mais le premier ministre camerounais, Philemon Yang, donne son assurance.
Nous avons visité les chantiers, nous avons une réunion et je suis très content de ce que j'ai vu et de ce que j'ai entendu. La CAN aura lieu effectivement, il n'y a pas de problème. Nous avons demandé aux sociétés de continuer à travailler, le gouvernement continue à travailler, le secteur parapublic continue à travailler, et c'est sûr qu'on aura la CAN.
Il compte certainement sur les stades de Limbe et Bafoussam, déjà homologués par la CAF. En attendant, certains ouvriers du stade Amadou Ahidjo refusent de rentrer au travail en réclamant l'amélioration de leurs conditions de travail. Moki Edwin Kinzeka pour VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Allez, on termine par la Guinée où la semaine du numérique a été lancée hier à l'occasion de la Journée internationale des télécommunications. L'initiative vise à promouvoir les nouvelles technologies comme levier d'action pour un développement durable. Moustapha Mami Daïbi, ministre des Télécommunications et de l'économie numérique de la Guinée.
une semaine de numérique en Guinée pour sensibiliser les différents acteurs de l'écosystème sur les opportunités, mais également les défis liés au développement de l'écosystème au service des différents secteurs de production. Et ce qui est prévu, il est prévu une série de conférences, des hackathons et des séances d'initiation des jeunes à l'encodage informatique.
Alors, qui dit numérique dit au minimum ordinateur ou tablette. Est-ce que le Guinéen moyen a les possibilités de s'approprier ces outils informatiques?
Aujourd'hui, au-delà de l'informatique ou de l'ordinateur, ce que nous voyons aujourd'hui en termes de taux de pénétration des téléphones, des smartphones, c'est qu'il y a un taux de pénétration considérable. Et la réduction du coût d'acquisition des ordinateurs fait aussi qu'il y a aujourd'hui une tendance positive quant à l'appropriation de ces outils par l'ensemble des couches socioprofessionnelles.
Qu'est-ce qui est fait au niveau du gouvernement pour que le développement à travers les nouvelles technologies soit facilité, surtout en termes de communication et d'accès à Internet?
La première chose qu'un gouvernement fait, c'est s'assurer d'un cadre légal et réglementaire en place, et que ce cadre légal et réglementaire soit attrayant, qui permette à l'innovation d'avoir lieu, qui permette à l'investissement et bien entendu, créer des conditions favorables à l'investissement, à l'épanouissement des investisseurs privés et créer la confiance pour promouvoir les usages et protéger les usagers.
Alors, vous êtes ministre des Télécommunications. Quels sont les défis auxquels fait face votre ministère aujourd'hui?
Au-delà de notre ministère, les défis auxquels font face l'ensemble des secteurs c'est d'abord un défi relatif aux infrastructures. Nous sommes en train de construire les infrastructures largement. Nous sommes en train de promouvoir le développement des applications et des contenus locaux. Et nous sommes en train également de voir comment améliorer le système d'enseignement et l'orienter vers les applications TIC.
Alors, vous parlez d'enseignement. Est-ce que vous remarquez que les jeunes s'intéressent ou non à l'apprentissage justement des nouvelles technologies?
Beaucoup. Beaucoup de jeunes aujourd'hui s'orientent vers les filières de technologie de l'information et de la communication.
Voilà, c'était Mustapha Mami Daibi, ministre des Télécommunications et de l'économie numérique de la Guinée. Il était joint à Conakry par John Lindon.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme International Music, Comedy et Country Music. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écoutez de la bonne musique et partagez vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Remember fishing, fast cars and living. Out on the edge so far, they're gonna need forgiving. Real men like football, cowboys and outlaws. Can't help but fly so high, it's gonna hurt to fall. They light Saturday nights out on the town, Sunday morning coming down. A pretty girl out on the dance floor spinning. They can to say I love you. They don't need a reason. Real men love Jesus and they love mama. If they can get more than 40 hours, you know they're gone. They give it hell till they get it right. The kind every country girl's trying to find.
Voilà, on écoute de la country music avec Michael Ray. Real Men Love Jesus. C'est donc tout pour cette édition matinale présentée par Bagassi Koura et Jean-Roger Bion. Production a été assurée par Lionel Gaïma. La mise en onde par John Allison. Ainsi va le monde aujourd'hui. Passez une très bonne journée. On maintient la conversation sur Facebook et l'info est en continu 24h sur 24 sur voafrique.com.